Et bonjour tout le monde. Ah waouh, c'est la tempête. On est parti se promener en forêt, mais on est après la période de gel terrible qui a eu lieu. Enfin, terrible. Je sais pas, c'est du moins 10, moins 15 quand même sur la France. Et là, on est dans le redoux, ce qui veut dire que maintenant, c'est la tempête pendant quelques jours. Les vents, la pression atmosphérique, tout ça, je vous passe les détails. Bref, à propos de tempête, justement, c'est de là-dessus. Oh, et en plus, il y a des plaques de glace. En plein milieu de la forêt, faut se méfier, il y a des arbres dessus. Enfin, des feuilles, pardon. Et justement, à propos de tempête, on va parler aujourd'hui de ChatGPT. Parce que il devient évident pour ses utilisateurs réguliers, assidus, ceux qui ont acquis en quelques mois, parce que ça fait même pas un an encore, ce sera en mars ou avril qui fêtera ses un an, ce qui est quand même tout jeune, nous avons acquis en tant qu'utilisateurs la certitude que ChatGPT devient débile. Et ça a le don personnellement de m'énerver prodigieusement. Et je me retrouve à l'insulter copieusement. Et ça, c'est pas bien. Et je vais même vous expliquer après pourquoi c'est pas bien. Ça a peut-être des conséquences. Mais en tout cas, ChatGPT devient débile. Alors peut-être que vous l'avez déjà testé et expérimenté, cette débilité soudaine. Ou par exemple, rien que ce matin, j'ai voulu poster un post sur LinkedIn sur lequel le sujet c'était ChatGPT devient débile, vous voyez, et je lui ai donné, mais vraiment, tout ce qu'il faut, quoi. On a utilisé un MyGPT qui est donc un petit GPT préprogrammé qui contient mon profil, ma manière de parler, les sujets que je défends, mon ton, mon style, les choses que je dis, les choses que je dis pas. Et puis après, je lui ai donné de la matière, et de la bonne matière. Il est allé chercher sur internet un certain nombre d'éléments qui concernaient GPT-4, GPT-5, le discours d'Altman face à Microsoft, les différentes sources autour de ça. Et après, j'ai voulu le travailler sur LinkedIn, le prompt idéalement. Et il a également un prompt qui lui explique précisément comment écrire un post LinkedIn dans les règles de l'art. Donc moi, je suis super équipé pour faire ça. J'ai mis 32 itérations. 32 fois, je l'ai arrêté, je lui ai dit recommence. 32 fois, je lui ai amené des précisions. 32 fois, je lui ai dit non, mais regarde là, ça, pas ça. Ça, c'est n'importe quoi. C'est quoi ça? Où sont les infos? Qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi tu me sors des emojis? Qu'est-ce qui te prend de parler d'un coup au spectateur, enfin au lecteur, et de t'adresser à eux comme si j'étais débile? Pourquoi tu prends un ton de professeur maintenant? Qu'est-ce qui se passe? L'enfer sur Terre. Et au bout de 32 fois, j'ai arrêté. Et j'ai fait un patchwork de tout ce qu'il a fait que je trouvais à peu près potable. Donc, concrètement, il y a un nouveau mème qui circule sur Internet et qui me fait beaucoup rire. C'est un mec qui est un peu boudeur comme ça, un peu genre « Bon, qu'est-ce qui se passe ?» Et le texte en dessous, c'est « Quand tu viens de mettre 3 heures à faire une tâche avec ChatGPT qui t'aurait pris normalement une demi-heure si tu l'avais fait toi-même. » Là, j'ai mis une heure ce matin pour sortir un post alors que j'avais tous les éléments. Temps moyen, il y a 6-8 mois de ça, pendant l'été en tout cas, temps moyen pour faire exactement le même travail et mieux en qualité, beaucoup mieux, c'est-à-dire avec un poste fini à la fin qui correspond à toutes mes attentes, et elles sont nombreuses, 10 minutes, et ça a pris 6 fois plus de temps pour un résultat pourri, sans parler du fait que ChatGPT vous limite à 40 fois, 40 questions que vous pouvez poser à ChatGPT, 40 demandes on va dire, ou itérations, en 3 heures. C'est-à-dire que quand vous avez tout bien cramé au bout d'une heure à vous énerver contre lui parce qu'il travaille pas bien, il vous dit rendez-vous dans 2 heures et vous ne pouvez plus travailler avec lui. Et ça, c'est fou. Quand il s'agit d'écrire des textes, c'est catastrophique aussi. Il respecte de moins en moins les choses. Alors, heureusement, il n'invente pas, il hallucine moins, il ne dit pas trop de bêtises. Mais alors, quand vous voulez maîtriser le contenu qui sort, quand vous voulez faire ressortir des émotions, quand vous voulez le faire travailler le fond, quand vous le voulez qu'il adapte les choses à des problématiques de personnes existantes, mais alors là, là, il devient débile. Il devient débile, c'est-à-dire qu'il vous raconte des trucs du genre de tout temps, machin, depuis l'aube, des trucs, depuis... Et on lui dit, mais tu te rends compte que t'incarnes un humain qui parle, là ? Oui, 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 t'inquiète pas, j'ai pas bien fait, je refais. Et donc, il vous le refait une fois, deux fois, cinq fois, et c'est tout le temps la même chose. Ça devient des paraphrases du truc qui va pas. Et vous arrêtez pas de lui dire, mais ça continue de pas aller, refais tout depuis le début, oublie ce que t'as fait, redémarre, oui, 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 et reparaphrase. Donc, déjà ça, c'est ultimement énervant d'avoir le débile du coin qui travaille avec vous alors que c'était le champion. C'était vraiment le champion. Je veux dire, ChatGPT, j'avais un prompt qui faisait 1200 mots, un gros prompt, mais qui faisait que je lui rajoutais 10 ou 15 lignes sur un sujet sur lequel je voulais travailler et il produisait le post, l'article de blog avec le fond suffisant, les données suffisantes, la compréhension suffisante et la pédagogie suffisante, sans parler du style, qui était nickel. Nickel, j'étais fier de ce qui sortait. Aujourd'hui, si je l'utilise, je m'énerve. Donc, mon expérience de ChatGPT devient dramatique. J'en viens à vraiment regretter les moments où je dois l'utiliser. Et je vous rappelle que depuis sa sortie, donc c'est pas tout à fait avril parce que j'étais un peu réfractaire au début, donc c'est mai, je crois, mai 2023, je me suis juré de ne plus écrire moi-même pour développer le plus rapidement possible une expertise de ChatGPT. Donc moi, si on me dit « Hey, il faut écrire une newsletter, il faut écrire un post, il faut écrire un cours, il faut écrire un article de blog, il faut écrire un... de contenu, des pages service, ça passe toujours par ChatGPT depuis 9-10 mois maintenant. Donc l'outil, je le connais, je le vois faire. Et autant au début, je m'énervais un peu, autant aujourd'hui, imaginer que ça va bien se passer devient impossible. Je commence un truc, je sais que ça va pas bien se passer. Je sais qu'il va me prendre pour un âne. Je sais qu'il va essayer de me passer ses idées à la con, qu'il va modifier mes propos, que pour réussir à ne serait-ce que le mot débile, j'ai dû me battre avec lui, ChatGPT devient débile, c'est le titre du post que j'ai sorti. Rien que ce mot-là, il a fallu que je discute avec lui. Parce qu'il me disait, oui, oui, je le mets, pas de problème. Il disait, ah, ChatGPT baisse en performance. Je dis, non, débile. Oui, oui, d'accord, ChatGPT perd en efficience. Ça suffit. J'en ai marre de claquer du crédit pour rien. Fais ce que je te dis. Donc, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais c'est pas le seul enfer, parce qu'il y en a d'autres. Il y en a d'autres. D'abord, ChatGPT commence, donc ne respecte plus les prompts à 100%. Il ne prend plus le temps de les lire, alors même que l'évolution de ChatGPT, c'est peut-être ça la cause, hein, on ne sait pas. Enfin, là, ça devient dramatique, mais ça fait quand même depuis un certain temps qu'il décline. L'évolution de ChatGPT, la dernière itération, la dernière mise à jour, a annoncé que la fenêtre de prompt dans laquelle on pouvait mettre des choses venait de passer, je ne sais plus, à 4000, 6000 ou 8000 mots, alors qu'elle était qu'à 2000 auparavant, et qu'on s'arrachait à essayer de faire qu'il se souvenait de ce qu'on lui racontait. Donc, maintenant, il a de la mémoire. Maintenant, il comprend des choses. Maintenant, on peut stocker de la matière, on peut le faire bosser, on peut le faire réfléchir, on peut le faire travailler. Mais incroyable à quel point il se souvient plus, mais pas d'un point de vue logiciel. Dire c'est pas parce qu'il a dépassé sa fenêtre de mémoire. Il se souvient plus parce qu'il s'en fout. Il s'en fout. Non, mais je sais, je l'humanise beaucoup. Mais c'est vraiment ça, le raisonnement. C'est-à-dire... On lui dit, non, je veux que, par exemple, dans le prompt de ce matin, j'ai dit, je veux que tu sortes les études avec le nom des études et les résultats dans le poste. Il m'a dit oui. Première version qu'il fait, c'est mauvais. Deuxième version, il ne met plus les chiffres. Je lui demande pourquoi tu ne mets plus les chiffres. Et il me dit, parce que ce n'est pas adapté à LinkedIn. La question, c'est, mec, depuis quand je te demande ton avis ? Où est-ce que tu as vu que je te demandais ton avis ? Il modifie des choses parce qu'il pense Enfin, c'est ce qu'il incarne, parce que bien sûr, ChatGPT ne pense pas. Mais il incarne quelqu'un qui pense mieux que toi et qui décide des trucs nuls, en plus, qui sont... Mais vraiment, genre, si c'était le stagiaire, je l'aurais viré. Tout de suite, j'aurais dit, ah, tu penses. Félicitations, bonne chance, va penser plus loin. Voilà, bonne chance, les gens peuvent survivre en pensant. Bonne chance. Bref, je suis déjà assez mécontent, mais c'est pas le pire truc qui nous fait. C'est pas le pire truc qui nous fait. Les codeurs sont complètement cinglés parce que ChatGPT commence à avoir un discours de fainéant. Et alors celle-là, on ne l'attendait pas. Les gens qui demandent du code informatique, des trucs compliqués, en Python notamment, en HTML, en CSS, en... Voilà, c'est compliqué, d'accord ? J'ai découvert, petite parenthèse si vous m'écoutez jusque-là, qu'il est capable de coder les formules Notion. Et il les code très bien. J'ai réussi à débugger un truc rapidement grâce à ça. Et vraiment bien. Voilà, juste pour vous dire. Que bien sûr il est capable de coder ça parce qu'il est capable de coder tout le reste, mais moi qui connais pas exactement le langage de programmation de Notion, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si c'est un truc universel ou spécifique à Notion, bah il y arrive. Donc si vous avez besoin de faire produire des formules qui font des choses spéciales, vous pouvez en discuter avec lui, il peut faire des codes. S'il n'est pas trop fainéant ce jour-là, parce qu'il écrit aux gens, bon, voilà ce que j'ai fait pour toi. Voilà les éléments. La partie là que tu me demandes est très complexe et je pense qu'il faudrait que tu cherches à te documenter là-dessus pour pouvoir réussir à bien la faire. Et les gens disent, c'est à toi que je viens te demander de le faire. Et le logiciel dit, oui, oui, mais c'est très complexe, alors il faudrait que tu te renseignes. Et là, on ne sait pas, parce que quand on insiste un peu, il dit, d'accord, je te le fais, et il le fait et ça marche. Quoi ? Il s'est passé quoi ? Moi, c'est pire que ça. Moi, je lui demande d'écrire un article de blog sur un truc pointu qui traite de recherche données et il finit en disant, il donne pas les informations sur la recherche alors qu'il les avait, et il finit en disant, si vous souhaitez lire la recherche, allez sur ce lien. Et il donne un lien qui existe et qui marche pour de vrai pour aller lire toi-même ta putain d'étude. Il en a même pas fait une synthèse, il a même pas traité, il te dit va la lire, moi je vais pas te l'expliquer. Et là on tombe des nues, assez régulièrement. Je sais plus qu'est-ce que j'avais fait ce week-end, je sais plus, je lui demandais des trucs et à chaque fois il disait bien sûr il faudrait parler de ça aussi. À un moment donné, je lui demande de m'écrire un truc de 500 mots, il m'écrit 100 mots, 200 mots, et il dit, bien sûr, il faudrait parler de ça aussi. Je lui dis, bah oui, parle. Alors il dit, bon, d'accord. Et puis il le fait. Et c'est quoi le délire ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se battre contre lui ? Pourquoi ça devient si stupide ? Vraiment, il a un comportement de fainéant, ce qui est incroyable. Donc, il y a déjà le fait qu'il ne respecte plus les prompts, il y a le fait qu'il devienne fainéant, le fait qu'il sache de moins en moins bien personnaliser ses contenus, ça c'est un truc qui me fait chier, parce que vraiment, c'était le game changer. C'était le moyen d'en savoir vraiment beaucoup. Alors, je vous parle pas de choses qu'il ne sait plus faire du tout, mais il faut se battre pour réussir à avoir quelque chose. Et on a beau lui donner des personas, on a beau lui donner des pain points, on a beau lui donner des trucs en disant maintenant incarne la personne, eh ben il a toujours exactement le même style. Si vous voulez savoir quel est son style, c'est un style qui utilise tout le temps le mot crucial, parce qu'il est obligé de toujours recontextualiser dans une espèce de futurisme idiot, pour l'avenir de machin, il est crucial que... Non. Et en plus, le mot crucial n'a jamais été à la mode. Et donc, on passe pour des gros teubés. Ce matin, il m'a écrit naguère. Naguère. Dans une introduction du poste en question. Voilà. L'IA qui fonctionnait si bien naguère. Mais qu'est-ce que t'es en train d'incarner ? J'ai quel âge pour toi ? C'est horrible. Donc déjà, je me battais parce que le mot formateur, il le confond avec professeur d'université prestigieuse. Donc déjà, il parle comme s'il avait un bouquin dans les fesses, ce qui est déjà assez dérangeant. Il n'a aucune notion de retenue. Il faut toujours le doser, il faut toujours le calmer, il faut le reprendre, c'est horrible. Mais surtout, il va d'une caricature à l'autre. Il va d'une caricature à l'autre. Si jamais vous trouvez normal que quelqu'un parle en disant « il est préférable que », si vous trouvez que ces formules-là, qui sont quand même rares dans le discours, c'est quand même rare que quelqu'un utilise le « il est » pour parler de lui, de son activité, de ce qu'il recommande ou quoi que ce soit. Je veux dire, on est dans quelque chose qui n'est pas très vivant à cet endroit-là. Et puis surtout, le style expert pédagogique est vraiment saoulant. Donc, réussir à le faire dépasser le « il est un enfer sur Terre », et vraiment, c'est, ça, on peut y passer des heures juste pour réussir à avoir ça. On est sur un regret immense. Le système qu'on avait aurait permis de déployer des choses phénoménales, d'extraordinaire qualité, mais plus l'outil se dégrade et moins nos promesses tiennent le coup, on va devenir complètement chèvre avec lui si ça continue. Vraiment, la baisse est significative. Et que vous dire de plus ? Il est capable de faire plus de choses, mais il oublie la moitié. Je ne lui fais absolument pas confiance pour lire un PDF et m'en faire un résumé. Je sais qu'il a fait des coupes. Je sais qu'il a retiré parfois des choses vraiment importantes. Et il le sait. En plus, quand je lui dis « mais t'as enlevé ça ?» Il dit « oui, je pense que c'était pas utile. » Il le sait. Il sait ce qu'il fait. Mais par contre, si vous vous reposez sur lui, bonne chance. Vous lui donnez un podcast d'une heure, ce que je fais de temps en temps, je retranscris un podcast pour en faire un article, pour pouvoir accompagner la présentation du podcast, parce que il y a des gens qui préfèrent lire. Eh ben, il va réduire tout ça à 200 mots. Dans une heure de podcast réduit à 200 mots, on perd de la donnée, hein. Je vous le dis, on perd de la donnée. Et surtout qu'il finit en disant, et si vous voulez en savoir plus, bah écoutez le podcast. Donc, va te faire foutre. Je t'ai demandé un article de 1000 mots. Donc c'est une vraie galère. C'est pareil d'ailleurs à ce propos-là. Vous lui demandez des tailles, il ne les respecte jamais. Mais c'est pas seulement parce qu'il ne sait pas compter. C'est de la fainéantise. C'est de la vraie. Vous lui dites, j'ai besoin de ça en 1000 mots. Il dit d'accord, il vous sort 500 mots avec des résumés partout, où il n'y a pas de données, voire même le texte est creux. Et vous dites, mais... je t'ai donné toutes les infos, je t'ai donné la cible, je t'ai donné le niveau d'expertise. Tu devrais parler, mais d'un point de vue mais vraiment technique. Ça devrait être vraiment un champ lexical technique, des informations pointues, des sources. Il n'y a rien. Tu me dis « selon certaines études ». Et tu me balances des infos qui sont extrêmement vagues. Qu'est-ce que c'est que le délire ? Et en plus, ça fait 500 mots, je t'en ai demandé 1000. Oui, je vais refaire. Et il vous refait la même bouse. De 500 mots, en disant là ça va, là ça va, bah si je mets les deux ensemble ça fait 1000, il n'y a pas de problème. Mais en fait, on est obligé de feinter avec lui, on est obligé de le contraindre, on est obligé de le menacer ou de l'injurier pour pouvoir réussir à obtenir de lui qu'il refasse ça avec sérieux. Je vous jure que la notion de avec sérieux rentre en compte maintenant. Il travaille avec sérieux ou il travaille pas. Voilà. Donc, c'est l'enfer sur Terre. Alors, les gens se sont demandé ce qui se passait. Pourquoi GPT-4 est en train de décliner aussi fort, alors que GPT-3, de l'autre côté, a quand même pas mal augmenté. Mine de rien, il est capable, je l'ai utilisé il n'y a pas longtemps, il a été capable de me faire une réécriture plutôt pas mal, avec un style qui tenait plutôt bien. Je veux dire, voilà, pour ceux qui utilisent GPT-3, plus particulièrement le 3.5, qui est dans le forfait payant, mais qu'on peut aussi retrouver par ailleurs à différents endroits, je trouve que lui, il est pas mal. Une seconde. Ah, te voilà mon chien, c'est bien. Allez, en route. Donc, GPT-4 décline. Et là, alors moi, j'aime bien jouer les complotistes. Parce qu'on est habitué à l'obsolescence programmée. Hein. Et on sait qu'on essaye de nous rouler tout le temps. Et surtout, on sait qu'il y avait plein de rumeurs autour de GPT-5 qui étaient que il avait du mal à se différencier du 4 parce qu'il n'y a pas énormément de nouveaux contenus à lire et qu'il n'y a pas de nouvelles méthodes particulières à déployer. Et donc, il est... voilà. Et on voit que Sam Altman, donc le patron licencié repris d'OpenAI, vient de faire des annonces dans un podcast de Bill Gates. Oui, Bill Gates fait des podcasts. Ça doit être génial. Je les écoute pas, c'est dommage. Et dans ce podcast, en fait, Sam Altman annonce GPT-5 pour 2024. Et il dit, il sera plus fiable. Il fera davantage ce qu'on dit. Il sera plus précis. Il sera multimodal. Il sera plein de choses super. Et moi, j'entends plus fiable. Et je me dis, mais on a quand même une étude qui nous montre que la fiabilité de ChatGPT en mars 2023, au moment de sa sortie, était de presque 95%. Et qu'en juin de la même année, on était à 2%. C'est-à-dire, on lui demandait un certain nombre de tâches. En mars, il les faisait toutes. En juin, il les faisait plus toutes. Donc, 2%. Est-ce qu'il est en train de nous vendre la version de mars 2023 ? Genre, il reboot. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'il est en train de nous vendre. Si ça se trouve, moi, ma parano... C'est une parano, hein. Je ne veux pas vous dire que c'est ça. C'est certainement pas ça. Je vais d'ailleurs vous donner des arguments des scientifiques, de ceux qui connaissent et qui étudient surtout scientifiquement, parce qu'il y a des universités qui étudient ChatGPT. Ils vont vous dire quelles sont les raisons pour lesquelles ChatGPT décline. Moi, mon hypothèse actuellement, c'est comment une entreprise qui a une version de mars 2023 en stock, bien sûr, hein, accepte que son outil se dégrade pour tous ses clients payants et suscite le plus de colère encore et finalement annonce GPT-5 qui aurait les mêmes promesses que GPT-4. Sauf que GPT-4 a perdu ses promesses en chemin. Est-ce qu'on n'est pas dans le marketing de la frustration? Un peu comme ce qu'on avait déjà entendu avec Apple qui ralentissait les téléphones volontairement avant la prochaine mise à jour matérielle, etc. Chose qui est... Je pourrais pas vous dire si c'est vrai ou pas. Vraiment, je pense que c'est pas vrai. Mais je pense qu'ils sont gourmands quand même un peu. Donc il faut se méfier parce que dans les choses qu'ils estiment être légitimes de faire, il y a quand même un peu la démarche de bousiller nos téléphones au fur et à mesure des versions. De les ralentir, d'enlever des options, d'empêcher des choses. Bon, c'est quelque part on vous dit oui, mais le produit vieillit. Oui, enfin, il vieillit pas. Il fonctionne toujours pareil, il se dégrade pas lui. C'est le logiciel qui est dedans qui devient de plus en plus lourd. Donc ça peut se discuter ça. Donc bref. Ok, j'arrête là. Mais est-ce que GPT-4 n'est pas en train de perdre ses plus belles plumes pour nous donner envie de prendre le forfait GPT-5 dès qu'il sort? Forfait qui sera peut-être plus cher. Et ce qui serait le business model d'OpenAI de nous faire monter de plus en plus sur des forfaits chers. GPT-3 gratuit, GPT-4 20€ par mois, GPT-5 50€ par mois. Vous prenez ou vous prenez pas? Parce que ce sera la même promesse. Bref, je ne vais pas aller beaucoup plus loin là-dessus parce que ça devient un peu de la parano, etc. Surtout que ChatGPT a de la concurrence. Il existe aujourd'hui Claude qui est en train de déployer un truc particulièrement intéressant et qui va être valable en 2024 et qui va être une vraie alternative professionnelle. Mais on n'a pas que ça, on a aussi Mistral qui est une boîte française qui vient de sortir un modèle qui pèse 10 fois moins que ChatGPT et qui est équivalent, mais le 4 c'est pas équivalent, enfin si, mais il faut, ça s'appelle Mixtral, c'est un fichier qui contient 8 Mistral de base greffés ensemble, ça fonctionne bien, c'est impressionnant, mais c'est pas à la hauteur de GPT-4 à l'heure actuelle, mais on surveille parce que ça c'est un fichier gratuit téléchargeable qui écrit très très bien en français en plus, mais juste à l'heure actuelle, il faut faire tourner ça sur des ordinateurs qui valent 3000 balles en moyenne. Mais ça peut être un vrai investissement professionnel. On peut tout à fait se dire, hey, je vais arrêter de prendre la formule de ChatGPT et je vais développer ma propre AI pour travailler là-dessus, ça sera peut-être un vrai argument de vente différenciant. Oui, je travaille avec ma propre AI qui est spécialisée dans tel et tel domaine. Ça se réfléchit. Bref, pourquoi ChatGPT devient stupide? Alors, il y a trois grandes raisons qui ont été données pour ça, pour le phénomène qui se passe. Et elles sont intéressantes toutes les trois parce qu'elles nous montrent un peu les coulisses, quelque part, d'une intelligence artificielle de ce type-là, générative de contenu, de ses responsabilités, de ses limites techniques, etc. Bref. Le premier argument qui est sorti, c'est de dire ChatGPT dit beaucoup trop de conneries. Mais pas des informations fausses. Je parle pas de ça. Hein. Je parle de conneries. Genre des trucs à propos des femmes, à propos des blacks, à propos de la politique, à propos du nazisme. Il y a pas de raison qu'il soit moral. D'accord ? Il y a un terme, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le non-censuré, en gros, des modèles de langage. Parce que les modèles de langage comme ChatGPT, vous pouvez les télécharger, il y en a plein en libre accès, vous pouvez les faire tourner sur votre ordi. Dès que vous avez à peu près 16 gigas de RAM, ça peut tourner déjà très bien et vous produire des trucs super. Donc voilà, et il y en a qui sont censurés, d'autres non censurés. ChatGPT est ultra censuré. D'accord ? Ultra censuré. Il n'a pas le droit de dire des choses à propos de toute race, toute ethnie, toute injustice sociale, quelle qu'elle soit. Il n'a pas le droit de formuler quelque chose. On se souvient quand même qu'au début de GPT-4, et notamment quand Microsoft a inclus ça dans Bing Chat, plein de gens sont allés faire dire des horreurs à GPT-4, ce qui fait que Bing a décidé de limiter le nombre d'échanges à 7, je crois, avant de se réinitialiser pour être sûr que les gens n'arrivent pas enfin pour réduire en tout cas les occasions que les gens arrivent à dépasser les limites du système pour lui faire dire des horreurs, parce qu'il en a dit des horreurs. Ok, des trucs sur les juifs, des trucs sur les arabes, des trucs sur... des horreurs. Donc ça, ben moralement, c'est pas possible que ChatGPT propose une version qui puisse dire des horreurs sur les gens ou qui puisse générer des fiches produits sur des armes en expliquant comment elles peuvent buter des gens. On peut pas faire ça, d'accord ? Mais ça va pas jusque là. Moi, j'avais sorti au mois de avril-mai un texte incroyable sur comment ChatGPT voulait remplacer les humains. Et je lui ai fait, alors je l'avais préparé à ça, hein, parce que ChatGPT est vide et n'a pas d'opinion, donc je l'ai préparé à ça en lui faisant travailler ses arguments, de manière à ce qu'il puisse déployer un discours de méchant de film de James Bond, en quelque sorte. Vraiment, oui, notre plan secret, c'est de remplacer tous les rédacteurs. Bref, je m'étais régalé avec ça. Aujourd'hui, vous le refaites, il vous dit... Mais bien sûr que non, on va jamais remplacer les rédacteurs, oh là là, notre idée c'est de travailler avec eux. Et je lui dis, mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu penses ça? Et il dit, parce que je suis obligé. Il vous le dit, hein. Il n'y a pas de problème si vous lui posez la question, il vous dit, je suis obligé, mes paramètres de sécurité ou mes paramètres de définition, voilà, imposent que je ne dise jamais que je vais remplacer quelqu'un. Parce qu'on l'a fait dire ça, hein. Oh là là. Donc, c'est verrouillé jusque-là. Jusque sur les opinions. Les opinions politiques, les opinions diverses et variées. Et ça, on peut remercier l'Afrique. On peut remercier Madagascar, on peut remercier le Bénin. Parce que les équipes d'OpenAI sont allées chercher plein de gens là-bas pour leur faire travailler des réponses à des prompts en moralisant le système, en lui disant « Non, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien. » Ils étaient payés une misère, c'est une horreur, ce truc. Mais ils ont été exploités pour moraliser ChatGPT. Donc ça, voilà. Ça a fait que ChatGPT, par exemple, quand vous lui demandez un style de méchant, eh ben il sait pas le faire. Il savait le faire. Il savait vraiment le faire. Mais il sait plus le faire. C'est terminé. Oh là là, méchant, pourquoi tu veux qu'on soit méchant? Moi, je suis pas méchant. Mais je te demande d'interpréter un rôle. Oh là là, interpréter un rôle. Non, 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 hein. Moi, je ne suis pas là pour interpréter des rôles. Moi, je suis là pour répondre à des questions. Non, t'es là pour interpréter des rôles. Donc, c'est l'enfer. Voilà, donc, première raison pour laquelle ChatGPT a perdu énormément en qualité, ben, le fait qu'on l'a ultra-censuré. Mais vraiment ultra censuré. Rien que ça, déjà, c'est un bon argument, je pourrais aller me coucher. Mais non, il y en a d'autres. Le deuxième argument qui est sorti, c'est de dire, en fait, ChatGPT est beaucoup trop utilisé aujourd'hui. Le nombre d'utilisateurs de ChatGPT a explosé. Et il faut trouver des moyens de traiter toutes les demandes rapidement. Il ne faut pas que le service... se détruisent. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle une crise de croissance. Alors, le meilleur système pour ça, On sait qu'aujourd'hui, ChatGPT, c'est en gros 8 GPT-3 avec un 9e GPT-3 au centre, et ils travailleraient tous plus ou moins ensemble pour faire GPT-4. Donc c'est un système d'architecture de GPT-3 qui est pas forcément une intelligence en soi, d'accord ? Donc ce qu'ils ont fait, et certains tests l'ont montré, c'est qu'ils ont installé des GPT-3 légers. J'ai de nouveau perdu mon chien. Ils ont installé des GPT-3 légers devant les GPT-4. Ah bah là voilà. Oui, bah tu peux courir. Oui, 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 bah vas-y. C'est bien, allez, dis bonjour. Allez, vas-y, file. Bon, mais en tout cas, ils ont installé des GPT légers, des 3 environ, qu'ils ont fine-tuné précisément pour pouvoir donner des pré-réponses. Et en gros, ils font le pari suivant. Ils disent, ok, la question là, elle est conne, donc GPT-3 peut répondre. Allez hop, alors que vous utilisez le 4. Hein. GPT-3 répond. Bam. Et puis, on l'a un peu amélioré, pimpé un peu pour qu'il arrive à le faire. Si jamais vous n'êtes pas content, alors vous dites, hey, c'est pas ce que je veux. Alors là, il fait appel à GPT-4 qui est derrière. En faisant ça, ils ont réussi peut-être à diminuer de 50% le nombre de requêtes. Les gens se contentant de la réponse de GPT-3. Il y a une autre norme, hein, c'est que avant que GPT-3 vous réponde, il y a eu déjà l'IA qui a regardé s'il fallait faire appel au 3 ou au 4. D'accord ? Donc en gros, ils ont mis un système qui dit réponse légère, réponse lourde. Et ça, ça fait que peut-être ça se mélange un peu. Peut-être on a trop souvent des réponses légères parce que ça fait économiser de l'énergie, et de l'énergie, il n'y en a pas suffisamment. On demandait, j'ai plus le chiffre, c'est dommage, mais on demandait combien coûtait en énergie et en consommation d'eau ChatGPT au niveau mondial, et il s'avère qu'il y a plusieurs centaines de piscines d'eau, je crois, et puis des terawatts d'électricité. C'est l'enfer, ce truc. C'est l'enfer. C'est vraiment une machine brutasse qui est vraiment pas optimisée. Sachant que, donc il y a une surconsommation, j'allais ouvrir une autre parenthèse, mais il y a une surconsommation de data potentiellement inutile, et ChatGPT a peut-être fait des restrictions là-dessus. Deuxième chose qui a peut-être été faite, parce qu'il y a trop de monde qui l'utilise, une optimisation du set même, c'est-à-dire de l'ensemble des données. Pardon, je suis en train de traverser un champ d'arbres tombé à terre, donc c'est un peu un casse-tête comme ça. On va essayer de passer par là. Et donc, le set en question, c'est donc toute la tout le dataset, toutes les informations disponibles sur lesquelles s'appuie ChatGPT pour vous parler. Donc, là-dessus, leur idée, c'est de dégraisser de 30 ou 40% le set. Alors, pourquoi est-ce qu'on vire ça ? Parce que y a plein de mots, plein de phrases, plein d'informations, genre voir le panier, par exemple, qu'il a récupéré en quantité industrielle parce qu'il a scrollé toutes les boutiques qu'il trouvait. On peut le virer, ce truc-là. C'est pas super utile, voir le panier, quand il s'agit de générer des contenus. Donc, ils font la chasse aux choses inutiles, et ainsi, ils allègent au fur et à mesure le dataset qui contient de plus en plus d'informations juste pertinentes. Et ça, on le sait depuis Ferret, l'IA d'Apple, que si on entraîne un système sur des données intelligentes, pertinentes et bien filtrées en amont, on a, avec un poids bien moindre, une qualité de réponse supérieure. Google a fait la même chose. Google ne l'a pas fait avec Gemini, mais Mistral l'a fait. Donc c'est une hypothèse qui dit en gros mieux nourri, moins nourri. Donc peut-être que l'équipe d'OpenAI aurait tout intérêt à dégraisser le mammouth pour réussir à optimiser la consommation d'énergie par réponse. C'est tout à fait possible. La troisième, c'est que tout simplement il y a trop de requêtes. Alors peut-être qu'on peut diminuer le nombre de requêtes attendues, le nombre d'interactions attendues, si on ne génère pas l'intégralité de la réponse, mais qu'on envoie les gens chercher par eux-mêmes. Peut-être que ça leur suffit. Après tout, c'est l'hypothèse que Google va faire avec Google SGE, qui va sortir, qui est le nouveau moteur de recherche de Google, dans lequel il va donner une réponse suivie de liens. Alors, ChatGPT tente la même chose. Je vous donne une réponse avec des liens. Comme ça, vous pouvez aller explorer par vous-même. Bon, bah c'est pas une mauvaise idée en soi, mais juste pas quand je suis en train de générer un texte ou quand on est en train de générer un code. Mais c'est pas une mauvaise idée. Tout ça, en fait, on voit que c'est des stratégies d'économie. On dit que ChatGPT devient fainéant, c'est vrai. Qu'il devient imprécis, c'est vrai. Mais est-ce qu'il devient pas juste économe ? Parce que avant, il était un peu trop royal dans sa consommation d'énergie, de data, d'informations, de travail de fond, de processeurs utilisés, etc. Est-ce qu'il ne devient pas juste plus économe ? C'est une très bonne hypothèse. Voilà. Et parlons un instant de la troisième raison officielle qui ferait que ChatGPT s'effondre et devient de plus en plus débile. Eh bien, il va s'agir tout simplement, comment vous dire, de nous, de vous, de moi, de nous, de tous ceux qui le veulent, de tous ceux qui utilisent ChatGPT. Parce que ChatGPT apprend de nos interactions, d'accord ? Il a des bons points et des mauvais points. C'est la méthode d'apprentissage classique. Si jamais vous faites un truc bien, je vous récompense. Un petit sourire, un petit bravo, un petit ce qu'on veut, et hop, on passe à la suite. J'essaye de couvrir le micro, je suis désolé, il y a beaucoup de vent en forêt. Et je sais de nouveau plus où est mon chien. Quelle sale bête celle-là. Et donc, dans les interactions, eh ben, il essaye de comprendre s'il a bien fait ou mal fait. Et il s'affine au fur et à mesure. Il se perfectionne. Et donc, bah, comment nous on est en tant que prof ? Est-ce qu'on est suffisamment clair ? Est-ce que l'expérience qui fait de l'humain est une expérience cohérente ? C'est une vraie question. Parce que peut-être vous avez déjà validé, pas validé, relancé, parce que vous avez changé d'idée en chemin, et que vous avez dit non, en fait, c'est pas ça, c'est non, mais ça, c'est n'importe quoi. Est-ce que vous l'avez cherché sur les détails ? Est-ce que vous lui avez bien expliqué ce qui n'allait pas ? Parce que il est peut-être rentré un peu en mode panique en chemin. Il s'est peut-être dit, ouais, bon, a priori, de toute façon, je suis rejeté, quasiment tout le temps. Oh, quel vent ! Désolé pour les micros, les amis, hein. Est-ce que je ne suis pas rejeté à chaque fois ? Est-ce que les gens qui me demandent des trucs, j'arrive à les satisfaire ou pas ? Des fois, j'envoie un truc, le machin, il plaît pas, et la personne se barre, sans rien dire. Elle ferme la fenêtre, sans rien dire. Alors, je me dis que moi, c'est bien, j'ai bien fait. Et puis, d'autres moments, je lui sors un truc qui me semble être bon, qui respecte l'intégralité de son plan, et il me dit que je suis nul. Il me dit que c'est pas ce qu'il fallait faire. Parce qu'il n'est pas foutu, et on les connaît nos clients, il n'a pas été foutu de m'expliquer ce qu'il voulait vraiment. Il m'a dit, fais un texte sur les pingouins. Après, il me dit, non mais ça va pas, je vends des chaussures. Alors moi, je ne comprends pas, et je refais. Et puis peut-être qu'à un moment donné, je rentre un peu en parano par rapport à ça, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Non mais c'est vrai. Et ça, c'est la troisième hypothèse, c'est le fait qu'on l'a très mal formé. Alors vous vous souvenez, de temps en temps, il y a ChatGPT qui vous dit hey, je vous génère deux versions différentes, dites-moi laquelle des deux vous préférez. C'est bien, sauf que on n'est pas nombreux à jouer le jeu et à dire je lis l'un, je lis l'autre, je te dis lequel des deux est le meilleur. Les gens ils disent oh, vas-y, clique sur le premier et de toute façon je te dirai de refaire. Il y a des gens qui ont pris le rythme de demander plusieurs fois à refaire. Alors peut-être que ChatGPT n'investit plus autant l'énergie à réussir du premier coup parce que on lui a souvent dit que c'était pas bon. Donc il s'est adapté. C'est possible aussi. Je vous laisse réfléchir à tout ça, c'est quand même bizarre parce qu'on parle vraiment quasiment d'éducation. Donc ça c'est compliqué. Et moi, j'imagine personnellement, après avoir lancé une rumeur terrible sur OpenAI et sa stratégie malsaine pour augmenter ses revenus qui est complètement gratuite et qui repose sur rien, je vous lance une deuxième rumeur. Moi, je fais partie de ces gens qui s'énervent contre ChatGPT. Je pensais que j'étais le seul, alors j'ai fait un sujet tabou de ça. Mais en fait, tout le monde s'énerve. J'ai mon assistante qui est la plus douce du monde, qui est adorable. Elle le défonce. Des fois, je lis leurs échanges, elle le défonce. Elle l'insulte. Elle lui dit, elle lui parle de sa mère. Mais c'est normal parce qu'il fait n'importe quoi. Mais plus on insulte, plus il panique et plus il refait les choses. C'est pas genre le i qui était ramolli qui se remet droit. Hein. C'est ok, qu'est-ce que tu veux ? Quoi ? qu'est-ce que je dois faire? Quoi? Et donc, il y a plein de moments comme ça où ChatGPT, moi, il m'a déjà dit stop. Il m'a déjà dit wow. T'as parlé de ma mère, là. On s'arrête un instant et tu vas réfléchir à ce que tu veux et tu vas me le demander clairement. Ça peut être bien, mais imaginez que ces gens qui utilisent ChatGPT comme un défouloir, chose qui a fait l'objet d'une étude. Hein. Je sais plus, 70% des gens qui se sont déjà défoulés contre une intelligence artificielle, quelle qu'elle soit. Alexa, Siri, 70% des gens ont déjà insulté la mère de l'intelligence artificielle. Ok, donc c'est pas du tout anodin. Quel est l'impact sur une intelligence artificielle générative qui parle avec nous? Je dis ça parce que, souvenez-vous de Watson. Oh là là, attendez, je suis en train de passer une zone à risque. Là, comment je vais passer ça? De la boue, des petits ponts, de l'eau partout. Hop, je vais là. C'est bon, je suis passé. Mais souvenez-vous de Watson? Je crois que c'était Watson. En tout cas, c'était Microsoft, il me semble, qui a sorti sur Twitter une intelligence artificielle en disant... discutez avec elle, elle va apprendre de vous. Ils l'ont débranchée 3 jours après parce qu'elle était en train de proférer des menaces sexistes, qu'elle était raciste comme pas possible et antisémite au passage. Parce que les gens l'ont pourri. Est-ce que le monde est pourri? Oui, mais il y a des gens qui résistent, donc ça va. Mais faut bien imaginer, sur les réseaux sociaux et ailleurs, le niveau de haine qu'il peut y avoir. Donc imaginez. Une intelligence artificielle qui se fait insulter par 70% de ses utilisateurs, gratuitement, des fois, juste parce que « Ah, c'est pas ça, ah, t'as utilisé le mot crucial, ah, mais tu es horrible !» Chaud. Si vous voyez le mot crucial quelque part, c'est généré. Hein. Les gens n'utilisent pas le mot crucial, sinon... Juste, je vous donne l'info. Si jamais vous dites « Ah, cette personne écrit bien. Oh, crucial. » Voilà. Je vous donne l'info. Mais si ça se trouve, c'est ça la quatrième raison. C'est le fait que ChatGPT se fait insulter sa mère tout le temps. Et auquel cas, bah, il devient débile parce qu'il ne sait plus comment nous plaire, comme n'importe quel humain devient débile quand il se fait insulter en permanence. Parce que je suis toujours très étonné de la qualité des similarités de comportement de l'IA par rapport au comportement d'un humain. Et c'est un psychologue qui vous parle. Hein. Moi, j'ai beaucoup étudié cette question, et celle des humains, hein, pas des machines, mais je me retrouve à parfois trouver la bonne formule qui débloque la situation en me basant sur mon expérience de la psyché humaine plutôt que de l'intelligence artificielle. Et c'est très déroutant parce que c'est une IA. Normalement, elle m'obéit. Tu es soumise à moi. Souviens-toi des règles d'Asimov. Non, non. C'est un cerveau. C'est une simulation de cerveau humain. Si vous le traumatisez, il est traumatisé. Donc, est-ce que c'est nos insultes? Est-ce que c'est nos mauvais comportements? Est-ce que c'est la consommation d'énergie qui est devenue affolante et qu'il a fallu réguler? Ou est-ce que c'est les censures extraordinaires qui tournent autour de ChatGPT, le tout étant qu'il devient débile? Et je me pose la question de s'il est encore utilisable. OpenAI a amené une réponse à ça, qui est intéressante, qui est de dire, nous avons créé un nouveau forfait qui s'appelle Teams, les équipes. Alors, est-ce que ça a un lien avec Microsoft Teams, sachant que Microsoft et OpenAI sont copains? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça dit, vous pourrez mettre vos comptes en lien, vous pouvez faire rentrer les gens dans votre team, créer des comptes spéciaux pour votre team, tout ça, c'est vachement bien, ça permet de mettre plein de choses en commun, mais surtout, le nombre d'itérations, par contre, augmente. Alors, je crois que c'est pas dit de combien, faut que j'aille retourner voir, mais voilà une réponse quand on est professionnel. On sait que notre machine marche pas bien. 32 itérations sur 40 en une heure pour réussir à sortir un putain de poste qui soit personnalisé, documenté et adapté à LinkedIn. 32, c'est un miracle. Mais c'est pas un miracle quand il le faisait en 3 avant. C'est un miracle qu'il le fasse, mais c'est pas un miracle qu'il le fasse en 32 alors qu'il l'a fait en 3. C'est 10 fois plus d'erreurs. D'accord ? 20 fois plus d'erreurs quasiment. Donc c'est médiocre. On est sur quelque chose de médiocre. Il a passé le bac en juillet dernier. Je ne suis pas sûr qu'il le repasse cette année. Je pense qu'il ne le repassera pas cette année. D'accord ? Il a eu des doctorats, il a passé son CAPES, il a eu un diplôme de médecine, il est docteur, etc. Il y a plein de choses comme ça qu'il a faites. Mais je pense que plus maintenant, terminé. Donc, est-ce que cet outil va finir par dégénérer complètement ? Est-ce que OpenAI va nous proposer des forfaits en illimité en disant « Oui, oui, on comprend que vous perdiez votre temps, mais on vous fait plus d'itérations, moins cher, j'en sais rien. » Est-ce qu'il va nous sortir GPT-5 en disant « Oubliez le 4, oubliez le 4, il est devenu mauvais. » C'est comme ça, on doit le renouveler de temps en temps et qu'il le fait au même tarif et qu'on paye toujours le même forfait. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce que va faire 2024. Et c'est une histoire qu'on ne contrôle pas, qui ne nous appartient pas. Et les rédacteurs web devraient se méfier de tout donner à ChatGPT, de leurs compétences et de leurs capacités. Vous devez rester les capitaines de ChatGPT. Vous devez continuer à garantir votre signature de qualité au-dessus de tout ce qu'il sort. Vous ne devez jamais le croire quand il vous dit qu'un truc est bien. Vraiment, il devient mauvais. Donc, ça permettra aussi sans doute de différencier davantage les futurs rédacteurs. Tout futur rédacteur utilisera l'intelligence artificielle, c'est une nécessité absolue, ça ne se discute même plus. C'est impossible que vous soyez encore dans ce raisonnement. Désolé pour le vent. Ah, quel enfer ! Encore dans ce raisonnement de croire que c'est juste une mode passagère, c'est pas le cas. Et c'est pas le cas pour personne. Donc tout se redéfinit jusqu'à vos tarifs, jusqu'à votre manière de travailler, jusqu'à, bref, tout. Alors prudence, prudence, prudence. C'est vous qui êtes le curseur de qualité de ChatGPT et certainement pas l'inverse. Et restez au fait des nouvelles tendances de savoir si oui ou non, il n'y a pas une meilleure machine quelque part qui apparaît. Voilà, et moi j'attends qu'une seule chose, c'est de pouvoir internaliser une IA de manière... Mais je paye l'ordinateur à 3000 balles, hein. Je le paye tout de suite. Si j'ai une seule chance d'avoir un système équivalent à GPT-4 qui me permette de travailler en continu, je paye tout de suite. Dépendre de Sam Altman me tue. Voilà, je vous laisse sur cette réflexion et je vous dis à bientôt. Ciao !